Chapitre 2, un brochet de 14 livres. Nous présentons seulement à leur tour, et comme ils se produisirent, certains petits faits dont le croisement chatouille la curiosité. À une lieue en avant de l'équipage de trois pattes, ce mendiant à qui les gaietés riveraines donnaient un baron pour banquier et pour favorite une comtesse, deux hommes pêchaient à la ligne, non loin du fameux château de Boisrenaud qui avait pour lui seul un débarcadère. Monsieur Schwartz, le maître du château de Boisseneau, et l'un des principaux actionnaires des bateaux-postes, valait bien cela. Nos deux hommes étaient voisins et rivaux d'honneur. Un peintre aurait pu les prendre pour sujet d'un tableau de genre intitulé « Le riche et le pauvre ». Le pauvre, plus mal couvert encore que notre ambitieux similaure, avait tournure d'infirmier en disponibilité et portait l'uniforme usé lamentablement des garçons en pharmacie. Son tablier de toile grise à besace n'était plus qu'un lambeau. C'était un brun, coiffé de cheveux noirs ébouriffés sous son chapeau de paille en ruine, dont les bords avaient deux ou trois échancrures de plat à barbe. Les loques de son tablier, montant, recouvraient une large poitrine et ses épaules carrées fatiguaient énergiquement le drap trop mûr de sa veste. Par contre, dans son pantalon, luisant de vétusté, au lieu des triomphants mollets de Similor, deux flûtes osseuses et cagneuses ballottaient, trop faibles en apparence pour supporter ce torse athlétique et cette grosse tête de nègre d'étain. Entre lui et Similor, malgré une dose de laideur à peu près égale, c'était donc une dissemblance parfaite. Cependant, je ne sais comment expliquer pourquoi la vue de l'un faisait penser à l'autre. Ces deux-là, des pieds à la tête, appartenaient à la grande famille des pauvres airs parisiens. Comment peut-on appeler pêcheur un homme qui laisse pendre dans l'eau une ficelle attachée à un bâton et munie d'une épingle recourbée? Oui, s'il prend du poisson. Le pauvre air prenait goujon sur goujon, en dépit de son instrument imparfait, et le lambeau de cholet, noué par les quatre coins qui lui servaient de filet, en contenait déjà une bonne assiettée, tandis que son voisin, le second pêcheur, n'avait pas encore accroché une ablette. Celui-là, pourtant, était un vrai pêcheur, un pêcheur classique, porteur de tout un arsenal de destruction. Il avait aux pieds des souliers imperméables, recouverts par de longues guêtres en cuir toile, fabriquées à New York tout spécialement pour la pêche à la baleine dans les mers polaires. Ces guêtres pinçaient une culotte de peau de daim sur laquelle se boutonnait une casaque de marin, modèle anglais, étoffe canadienne. Sa casquette, en forme de moitié de melon, venait de la Nouvelle-Orléans. Deux courroies, un peu moins larges que la buffeterie des gendarmes, soutenaient d'un côté son nécessaire de pêche, de l'autre son garde-manger. Une boîte supplémentaire contenant un assortiment recherché d'asticots indigènes et exotiques pendait à sa ceinture de cuir verni. Près de lui reposaient des lignes admirablement montées, les unes simples, les autres à tourniquet, un vase d'argent plein de sang de bœuf et plusieurs filets à main pour soulager le crin chargé de trop gros poissons. Et le pêcheur lui-même était, s'il est possible, encore plus beau que son attirail. Il avait un toupet sous son demi-cantalou, un toupet blond frisé à l'enfant. Ses joues pleines, rondes, appétissantes, gardaient cette fraîcheur luisante et légèrement couperosée de l'homme de 50 ans conservé avec soin. Ses jambes étaient grêles, mais son ventre bien portant formait ballon sous sa casaque et la relevait en pointe de la façon la plus galante. Il faut renoncer à peindre le mépris mutuel et profond que se témoignaient les deux pêcheurs. Le pêcheur à la ficelle qui prenait du poisson quittait la place de temps en temps et traversait le chemin de halage pour inspecter un objet déposé dans le champ de luzerne voisin, et chaque fois qu'il accomplissait le manège, sa figure hétéroclite prenait une expression attendrie. En revenant, il ne manquait jamais de regarder son voisin d'un air provoquant et narquois. Le pêcheur, propriétaire des engins perfectionnés, lançait alors à son émule des œillades obliques où l'envie le disputait au dédain. Il ne s'était pas encore parlé. « Bourgeois !» dit tout à coup le pauvre R, en tirant de l'eau une ablette frétillante à quelques pouces du bouchon fastueux mais immobile de l'amateur. « Ça vous amuse de pêcher comme ça le dimanche ?»«
Mon brave, » répondit l'autre du haut de sa grandeur, « je ne m'adresse pas à ces insectes dont vous semblez vous contenter. »«
À quoi vous adressez-vous donc, bourgeois ?»
« J'ai promis un brochet de 14 livres à Madame Champion. Faites silence, je vous prie, car le son de la voix humaine écarte le poisson.
Oh, « Vous amenez bien chou blanc sans ça, bourgeois !»
Monsieur Champion se redressa, en homme qui veut couper court à un entretien compromettant, mais il n'eut pas besoin de réclamer une seconde fois le silence. Le pauvre R avait changé tout à coup de contenance et tendait avidement l'oreille. Un son vague et sourd, bien connu des riverains du canal, venait du côté de Paris. L'homme à la ficelle n'écouta qu'un instant, et sa maigre figure prit une expression solennelle.
« Le bateau-poste » murmura-t-il. « C'est fini de rire, on va savoir. »
En même temps, il roula sa ligne et la mit dans sa poche. Monsieur Champion toussa, rougit et dit
« Combien vos insectes, mon brave ?»
L'homme à la ficelle attendait évidemment cette proposition, car il sourit en répondant
« Cela fera tout de même plaisir à madame, en place du brochet dans les 14 livres. »«
Fuis donc !» s'écria monsieur Champion indigné. « Ai-je l'air d'un homme qui rapporte de la friture à la maison ?»«
Oh non !» repartit le voisin, « jamais !»«
Je vous achète vos animalcules pour amorcer mes lignes. Combien ?»
Le mouchoir fut ouvert, et les goujons argentés brillèrent sur l'herbe aux derniers rayons du soleil. Monsieur Champion, malgré lui, les couvait d'un regard de concupiscence. On entendait déjà distinctement le galop de l'attelage.
« Un sous-pièce, » dit le voisin, « à cause de l'attelage. »«
1 franc le tout, » offrit Monsieur Champion.
Le voisin allait se débattre lorsque la tête des chevaux parut au sommet de la montée du pont. Il tendit la main vivement et arracha, plutôt qu'il ne prit, la pièce de 20 sous entre l'index et le pouce de Monsieur Champion. Sans ajouter un mot, il ramassa son mouchoir, laissant les goujons éparpillés sur l'herbe, et s'élança dans le champ de luzerne qui s'étendait entre le chemin de halage et la forêt. Il était temps, si, comme vous l'eussiez jugé vraisemblable, l'homme au tablier de pharmacien avait intérêt à éviter la rencontre du bateau. Les chevaux, lancés à pleine course, arrivaient sur le pêcheur de brochet, occupé à colliger son butin, et quelques goujons restaient épars sur la voie au moment où il s'accroupit pour laisser passer la corde.
« Oui, monsieur Champion !» cria le capitaine. « Toujours solide au poste. Avons-nous fait bonne pêche ?»«
Assez, assez, monsieur Patu, nonobstant l'effroi que ce nouveau mode de navigation répand parmi les habitants de Londres. »
Ce disant, l'orgueilleux montrait avec une triomphante modestie les goujons du pauvre voisin. L'aigle de Meaux numéro 2 fila devant lui comme une flèche. Le voisin, pendant cela, s'était coulé derrière la haie séparant le champ de luzerne du chemin de halage. Au moment où le bateau passait, il mit sa tête crépue à une ouverture de la haie et regarda de toute la puissance de ses yeux. Un frémissement nerveux agita bientôt son corps, sa face rouge devint blême et une larme brilla au bord de sa paupière.
« Ah, Similor, murmura-t-il d'une voix plaintive, « c'est donc vrai que tu trompes l'amitié. »
Les grandes émotions sont courtes. D'ailleurs, Similor exerçait sur Échalot une attraction irrésistible. Du revers de sa main tremblante, ce dernier essuya ses yeux et s'élança, mais il ne fit qu'un pas.
« Saladin !» prononça-t-il avec émotion, « j'allais oublier Saladin !»
Il revint en arrière et prit, dans une haute touffe de luzerne, un objet de forme oblongue dont la nature était assez malaisée à deviner, mais qui ressemblait pourtant à ces enfants de carton que le traître enlève au prologue des mélodrames et qui doivent plus tard devenir, selon leur sexe, le jeune ouvrier ou la jeune première de la pièce. L'objet avait une courroie,
Échalot passa la courroie à son cou et jeta l'objet sur son dos en disant « Sois calme, Saladin !» Puis il prit sa course le long de la haie avec une rapidité qui démentait sa lourde apparence. Son intention était évidemment de lutter avec le galop des chevaux. Il y eut bientôt sur son visage une épaisse couche de rouge et la sueur inonça ses tempes, mais il allait toujours, regardant le bateau par-dessus les broussailles et murmurant malgré lui le nom de Similor. Au bout de 400 ou 500 pas, cependant, l'objet secoué outre mesure s'éveilla et se mit à crier comme un jeune aigle. Qu'il fût ou non de carton, il avait une voix magnifique. Échalot lui fit des remontrances avec douceur. « Taisez son petit bec à bibi, lui dit-il sans ralentir le pas. Je vais te le boucher, Saladin, si tu continues. Nous allons à papa. Tu vois bien, failli merle. » Saladin n'en criait que mieux. On meurt de ces courses désespérées. Heureusement pour cet héroïque et tendre échalot, l'allure des chevaux se ralentit subitement, comme on dépassait l'angle d'une futaie de chêne pour entrer dans la grande plaine qui forme clairière entre Sevran et la route d'Allemagne. Au milieu d'un paysage admirable, le château de Bois-Renault se montrait. On arrivait au débarcadère du baron Schwartz. Échalot retourna son paquet et mit la main sans façon sur le bec de Saladin. Trois personnes descendirent du château. D'abord monsieur Cotentin de la Lourdeville, qui prit l'avenue sablée qui conduit au château, ensuite la jeune fille aux voiles noires, qui suivit plus lentement la même direction, enfin Similor, léger comme une plume, qui, après avoir adressé un salut courtois à son adversaire, remonta le chemin de halage sur la pointe du pied. Échalot, caché derrière un buisson, soufflait comme un phoque en le contemplant. D'une main, il étouffait Saladin et tamponnait la sueur de son front avec une autre manche. « Ce n'est pas toujours pour cette jeunesse qu'il court, murmura-t-il. C'est pour un tas de manigances qui lui feront son malheur. Mais, minute, nous sommes là, pas vrai, petitot. On va savoir enfin de quoi il retourne. » Sur ce chemin de halage, où Similor sautillait dans ses chaussons de lisière, évitant avec une gracieuse adresse les moindres vestiges de la récente ondée, un homme grave allait à pas compter, regardant couler l'eau philosophiquement et faisant tourner entre ses doigts une tabatière d'argent niellé. Ce geste était d'une perfection si rare que vous eussiez cherché la maline traditionnelle à son jabot et le claque sous son aisselle. Mais au lieu du frac en drap de soie, il portait en effet un habit gris de fer, coupé carrément et orné de boutons blancs. Monsieur Schwartz, le puissant financier qui était roi dans ses campagnes, avait choisi pour ses valets cette solide livrée rappelant l'uniforme des garçons de la Banque de France. Ce n'était qu'un valet, bien qu'il eût coutume de parler, sa casquette sur la tête, aux autorités décoiffées de Sevran et de Vaujours. Similor marcha jusqu'à lui et l'aborda chapeau bas d'un ton timide et doux. Il lui demanda « C'est-il bien à Monsieur Domergue que j'ai l'avantage d'adresser la parole ?» Monsieur Domergue ne répondit pas plus que ce malheureux patu, capitaine de l'aigle de Meaux numéro 2, mais s'il est une dignité respectée par Similor et ses pareils, c'est celle de valet de grande maison. Il y a, dans la haute position de l'homme à livrer, quelque chose qui les éblouit et qui les fascine. Similor, l'ombrageux Similor, ne se fâcha point et attendit. Ce puissant Domergue était distrait. Il regardait, sur la ligne de halage, le bizarre véhicule dont nous avons parlé, le panier de trois pattes, traîné par un chien de boucher. Il souriait avec une fière bonhomie et se rangeait déjà le long de la haie pour faire place à l'équipage de l'estropié. Trois pattes poussaient son molosse et arrivaient grand train. En passant devant M. Domergue, il dessina un signe de tête familier. « Bonjour, M. Mathieu, lui dit courtoisement le domestique. Les affaires vont, à ce qu'il paraît ?» La figure terreuse et barbue de trois pattes avait ce sourire fixe des masques. Il répondit
L'argent est dur à gagner. Je viens causer de mon argent. Monsieur le baron est-il à la maison ?
Pour vous, toujours, monsieur Mathieu. »
L'équipage de trois pattes entrait déjà dans l'avenue du château. Monsieur Domergue ajouta, entre haut et bas, « Une drôle de lubie que monsieur a de causer avec ce paroissien-là. »
« Pour quant à ça, dit Similor, saisissant aux cheveux l'occasion d'entamer l'entretien, je n'en reviens pas de ma surprise. »
Monsieur Domergue abaissa sur lui son regard noble et le toisa de la tête aux pieds. Similor cligna de l'œil agréablement et poursuivit, « Comme quoi les mystères abondent de tous côtés autour de nous. »
« Qu'est-ce que vous voulez, l'ami ? » interrompit Monsieur Domergue.
Similor, baissant la voix et mettant sa main au coin de sa bouche pour ne rien laisser perdre de sa réponse, répliqua,
« Ayez pas peur, j'ai la confiance entière du jeune homme. »«
Quel jeune homme ? » ?»«
Monsieur Michel, parbleu. »
Les traits du domestique se déridèrent à ce nom. Échalot, toujours aux écoutes, bouche béante et le cou tendu, faisait des efforts inouïs pour entendre. Similor poursuivit en prenant une pause théâtrale.
Par conséquent, on est chargé de vous demander tout simplement s'il fera jour demain.
Voilà.